Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Paralysie des activités socio-économiques ce lundi dans plusieurs quartiers de Goma. En cause, plusieurs mouvements citoyens contestent le programme officiel d'inhumation des victimes des incidents violents du 30 août dernier. Ils qualifient ce programme d'unilatéral, sans consultation des familles des victimes. Il s'ouvre demain mardi à New York, la 78e Assemblée générale de l'ONU. Plusieurs situations brûlantes de l'heure que traverse le monde seront abordées par plus de 145 chefs d'État et de gouvernement qui vont défiler à la tribune des Nations Unies. Et puis, province de la Tchopo, la population de Basoko vit dans la précarité, constat du député national élu de ce territoire pendant ses vacances parlementaires, Faustin Toingao, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Paralysie des activités dans la matinée de ce lundi dans plusieurs quartiers de la ville de Goma. À l'origine, des manifestations populaires contre le programme d'inhumation annoncé officiellement pour ce 18 septembre des victimes des incidents violents du 30 août dernier. Plusieurs mouvements citoyens qui contestent ce programme du gouvernement provincial ont placé des barricades sur plusieurs artères urbaines. Bernardin Nyangui, reportage.
C'est autour de 8 heures locales que certains jeunes ont commencé à barricader la circulation sur certains axes routiers moyennant des pierres. C'est entre autres dans les quartiers Katindondosho et Keshero et même axe Katoyimajengo au nord. La police s'est vite déployée pour tenter de dégager la route. Sur certains axes, des tirs de sommation ont même été entendus. Conséquence, une paralysie des activités socio-économiques a été constatée. Plusieurs écoles n'ont pas fonctionné et les autres ont dû renvoyer les enfants à la maison. Boutiques et magasins sont restés fermés toute la matinée. Rappelons que tout est parti de la contestation de l'inhumation des personnes tuées lors des incidents violents du 30 août dernier. Peu après l'annonce officielle du porte-parole du gouverneur, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, à ce sujet, des mouvements citoyens et un autre groupe informel dénommé Collectif de deuil et de victimes du 30 août ont allégué que la décision a été prise unilatéralement, sans consultation des familles des victimes. Ces activistes exigent la libération de tous les survivants de ces incidents violents avant l'enterrement. En ce moment, si les barricades sont dégagées par la police dans différentes artères routières, un déploiement important de militaires et policiers reste observé dans tout le coin névralgique de la ville. Goma, Bernardin Nyangui, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans la province du Kwango, la situation sécuritaire demeure préoccupante. Au moins 15 militaires des FARDC ont été tués hier lors des violents affrontements avec la milice Mobondo. C'était au village Moulossi, dans le groupement de Makengo, secteur de Bukangalonzo, territoire de Kenge. Information rapportée à Radio Okapi par Maître Adlar Nkissi, porte-parole du gouvernement provincial du Kwango. Il signale qu'au moins 3 miliciens sont tombés. Un bilan provisoire, a dit le porte-parole du gouvernement provincial du Kwango. Il explique la situation au téléphone de Irène Boma.
Nous apprenons qu'il y a eu des affrontements entre FARDC et les Mobondo dans le village Moulossi, dans le secteur Bukangalonzo. Effectivement, on nous informe qu'il y a 15 militaires qui sont tombés et 3 Mobondo de l'autre côté. Voilà, donc c'est un bilan qui n'est que provisoire. Les Mobondo, c'est un mouvement qui a commencé, que l'on maîtrise difficilement du fait que c'est comme une sorte de guérilla. Ils se reconstituent à un moment donné dans un ou un autre coin. Et donc, ils sont en présence, ça et là, pas très, très, très actifs comme au début. Et chaque fois qu'il y a un groupe qui se reconstitue quelque part, bon, l'armée est en train de faire son travail, malgré ce qui arrive, quoi. La population civile, c'est vide. Et donc, ce sont des effets collatéraux et qui nécessitent un regard particulier du pouvoir de Kinshasa aussi. Parce qu'il y en a qui sont venus de Kwamout, sont déplacés. Maintenant, du coup, ils deviennent double déplacés, même triple déplacés. Donc, ils sont partis de là vers Machongo, ils viennent à Bukangalonzo, ils sont encore obligés de fuir. Et donc la situation sécuritaire reste préoccupante.
Cette information est confirmée par le cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango qui donne le même bilan. Lucien Lufutu, président de cette structure, demande au gouvernement congolais d'appuyer le comité de sécurité provinciale afin de sécuriser la population et aux humanitaires d'assister les déplacés présents dans les zones de santé de Boko et Popokabaka où les attaques de Mobondo sont continuelles. Je vous l'ai dit dans les titres, la 78e Assemblée générale de l'ONU s'ouvre demain mardi à New York aux États-Unis d'Amérique. Plusieurs situations brûlantes de l'heure que traverse le monde seront abordées par plus de 145 chefs d'État et de gouvernement qui vont défiler à la tribune des Nations Unies. D'autres enjeux de cette session avec Alain Rongmouchinj, notre envoyé spécial à New York.
Le monde connaît en ce moment plusieurs foyers de tension sur le plan sécuritaire. C'est le cas par exemple de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale. Il y a également la succession des coups d'État en Afrique, l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23. La question du terrorisme seront abordées à cette Assemblée générale. Un autre point important qui défraie la chronique en ce moment, c'est le changement climatique qui reste un sujet d'actualité. C'est ainsi que samedi, le secrétaire général de l'ONU a appelé à un large éventail de la société civile à utiliser leurs voix et leurs actions pour aider à sauver les objectifs de développement durable, les ODD, pour un avenir meilleur. Il ne faudrait pas certainement oublier les catastrophes naturelles avec le tremblement des terres dans les environs de Marrakech au Maroc, les inondations en Libye et dans plusieurs autres pays du monde. De New York, Alain Rung, Radio Okapi.
Et justement, sachez que le président de la République est attendu à New York pour participer à cette session de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvre demain, selon le directeur adjoint de la presse présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'exprimera mercredi, va notamment revenir sur l'agression de la RDC par le Rwanda, le départ de la MONUSCO et le climat où la RDC se présente comme pays solution au changement climatique. On écoute Giscard Kousséma dans cet extrait proposé par Alain Rongmouchinj.
Le président de la République va prendre parole devant la tribune des Nations Unies. Ce sera la quatrième fois pour lui. Et on le sait que comme il a fait pour toutes les années précédentes, ses prises de parole sont très attendues dans la mesure où il va encore une fois porter haut la voix de la République démocratique du Congo. On sait que toutes les précédentes fois, ces prises de parole ont apporté de fruits parce que les lignes ont véritablement bougé. Aujourd'hui, tout le monde sait que les M23 agissent sous couvert du Rwanda qui l'appuie et que les Nations Unies ont produit des rapports documenté, avéré sur le soutien rwandais. Donc le président de la République va encore une fois mettre la communauté internationale devant ses responsabilités pour trouver une solution durable à cette question. Ce sera l'occasion pour le président de la République de réaffirmer le caractère irréversible du processus électoral en cours, comme il a toujours démontré, et que cela démontre également que le pays a réalisé plusieurs progrès dans le domaine de la diplomatie.
Autre nouvelle, 3 jours de deuil dès ce lundi à Lissala et dans toute la province de la Mongala. Décision du gouvernement provincial à la suite de l'éboulement meurtrier survenu hier au quartier Akula. Après le retrait des décombres, les 17 victimes ont été inhumées dans la soirée au cémetière Pombi, au quartier Etou. Entre-temps, les autorités s'activent pour la prise en charge des sinistrés et d'autres victimes dont les maisons ont été endommagées du fait de l'éboulement. Le point avec Paul-Richard Malengela.
La dernière victime a été retirée des décombres le dimanche vers 11h locales, indiquent des témoins à Lissala. Aussitôt, leurs corps ont été acheminés à l'hôpital pour des soins funéraires, lesquels ont été pris en charge par le gouvernement provincial avec l'appui en grande partie de la Fondation Sakombi Molendo et d'autres dignitaires de la Mongala. Mais faute de capacité dans les deux morgues de la ville, l'inhumation a eu lieu le même jour pour les 17 victimes, dont 7 hommes, 7 femmes et 3 enfants. Ce lundi, l'autorité provinciale a décrété un deuil de 3 jours et le drapeau national reste en berne sur toute l'étendue de la Mongala en mémoire de ses victimes. Le gouverneur César Mimbaya et ses collaborateurs viennent encore d'inspecter le site détruit par l'éboulement. Une quarantaine de sinistrés y ont été recensés, leurs habitations ayant été endommagées. La situation nécessite une assistance d'urgence. Voilà pourquoi l'autorité provinciale va tenir un conseil des ministres dans la journée afin de déterminer notamment les sites et les conditions de leur délocalisation. Vu cependant l'ampleur des dégâts matériels et humains causés par cet éboulement de terrain, plusieurs voix se sont élevées à Lissala. Elles sollicitent particulièrement l'intervention du gouvernement central, notamment une assistance humanitaire conséquente et urgente, ainsi que des moyens appropriés de lutte anti-érosive. Bondaka, Porcha Malengela, Radio Okapi.
Au Kasaï central, une dizaine de chefs de secteur ont été arrêtés ce week-end sur instruction du gouverneur de province pour un présumé détournement des fonds du projet agricole communautaire. Ce programme a été initié par la province pour faire face à la crise récurrente des maïs. Au sein du gouvernement provincial, on indique qu'une année après avoir obtenu des fonds à la suite d'accords signés, il n'y a pas de résultat. C'est sans explication claire. François Kadima.
Le protocole d'accord avait été signé en septembre de l'année dernière entre le chef de secteur et le gouvernement provincial à travers le ministère provincial de l'agriculture. Dans celui-ci, ces animateurs de la petite territoriale devaient produire chacun dans son entité 15 hectares de maïs et de niébé. 2 700 000 francs congolais avaient été alloués pour cette fin dans le souci de juguler la crise de maïs au Kasaï central. En croire le ministre provincial de la justice, une année après, plusieurs chefs de secteur n'ont présenté aucun résultat. Emmanuel Mouela.
On avait connu une carence en maïs. C'est comme ça que le gouverneur de province, John Kabe Shikai, avec son gouvernement, avait mis sur pied une stratégie de financer les chefs de secteur pour que chacun produise au moins 15 hectares. Mais curieusement, il est constaté qu'un bon nombre de chefs de secteur n'ont pas répondu positivement aux attentes du gouvernement provincial.
Qualifiant cet acte de détournement, le ministre provincial de la justice souligne qu'il a été décidé que ce chef de secteur soit mis à la disposition de la justice.
On a posé des questions. Personne ne s'est justifié. C'est comme ça que nous avons réfléchi. Mettre les concernés, c'est-à-dire les présumés détourneurs, à l'exposition de la justice. Entendu sur PV, que chacun donne ses moyens de défense et on va tirer les conséquences des droits.
Différents acteurs de la société civile disent saluer cette démarche et veulent que cette affaire soit mise au clair par la justice. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Du côté du Kasaï oriental, signalons l'arrivée hier en Mbujimayi du ministre du Travail et Prévoyance Sociale. Aussitôt arrivée, Claudine Ndoussi s'est rendue au gouvernorat pour présenter ses civilités au gouverneur intérimaire du Kasaï oriental. À l'issue de cette rencontre, le ministre du Travail et Prévoyance Sociale a indiqué que sa mission a pour but de superviser le paiement des prestations sociales ainsi que les activités de la Caisse nationale de sécurité sociale. Claudine Ndoussi s'est ainsi exprimée au micro des journalistes accrédités au gouvernorat de province.
Le chef de l'État nous a instruits pour que chacun puisse suivre de près de quelle manière les entités fonctionnent en cette période. Et voilà, je suis venu voir et superviser en fait les activités de mon ministère. Comme vous le savez, notamment ici, il y a l'administration du travail, l'administration de l'inspection du travail, il y a l'administration de l'emploi, mais également il y a la Caisse nationale de sécurité sociale où je vais devoir suivre de près comment se passent les paiements des prestations sociales et comment se passent en fait les activités de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ça, c'est l'aspect social sur lequel les chefs veillent tout le temps. Vous savez que le peuple, c'est les retraités aussi, c'est les veuves, c'est les rentiers, toutes ces personnes qui dépendent du régime général de sécurité sociale. Donc, je voudrais vraiment suivre de près et voir si c'est fait exactement comme le chef de l'État l'attend.
Actualité internationale.
Les forces de sécurité tunisiennes ont expulsé près de 500 migrants originaires d'Afrique subsaharienne hier. Ils occupaient une place dans le centre de Sfax après avoir été chassés de leur logement début juillet, selon le porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, une ONG qui suit de près le dossier de la migration en Tunisie. Selon lui, les migrants ont été dispersés par petits groupes en direction des zones rurales et vers d'autres villes. Pendant ce temps, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier dans les rues de New York réclamant plus d'action contre le changement climatique, cela deux jours avant l'ouverture officielle de l'Assemblée générale des Nations Unies. Des manifestants de quelques 700 organisations et groupes d'activistes s'y sont réunis brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire « Biden met fin aux énergies fossiles »,« Les énergies fossiles nous tuent » ou encore « Je n'ai pas voté pour les incendies et les inondations ». Le président américain Joe Biden figure notamment sur la liste des dirigeants mondiaux qui se retrouveront à partir d'aujourd'hui à l'ONU pour l'Assemblée générale dont l'ouverture officielle est prévue demain mardi.
L'invité.
Il nous vient de la province de la Tchopo. La situation générale du territoire de Bassoko n'a pas évolué. Elle est marquée notamment par la précarité de vie de la population à la suite des multiples difficultés. Le député national élu de Bassoko dit avoir fait ce constat pendant ses vacances parlementaires. Quelle est la situation générale sur place et qu'en est-il des travaux relatifs au projet de développement local de 145 territoires? Le député national Faustin Toingao en parle dans cet entretien avec Jacques Moukonkole.
Professeur Faustin Toengao, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député national élu du territoire de Bassoko. Vous en revenez des vacances parlementaires. Quel est le constat général qui se dégage pendant votre séjour là-bas?
Le constat général peut se résumer en ceci, que la situation sécuritaire, économique, sociale et environnementale ne change pas. La situation reste la même et la crise persiste.
Concrètement, qu'est-ce qui n'a pas changé, professeur?
Les routes sont toujours dans un état de dégradation très avancé. On a toujours de la peine à quitter Kisangani pour arriver à Bassoko par route. On a toujours de la peine pour quitter Bassoko et rejoindre les chefs-liers, les secteurs de chefferie par route. À Bassoko, il n'y a pas de véhicules qui circulent en dehors des véhicules de la société PAC à Lokoutou qui circulent dans un périmètre très limité de plantation. Mais la situation n'a pas beaucoup évolué et c'est ce que nous regrettons.
Comment pouvez-vous expliquer que la situation n'ait pas évolué positivement? Pourtant, elle est décriée par tous.
Je pense que tout cela trouverait une explication dans la gouvernance du secteur public, dans la gouvernance de la République, une gouvernance approximative, une gouvernance qui laisse à désirer. Voilà pourquoi nous appelons de tous nos voeux que le pouvoir en place puisse revisiter ses méthodes de travail afin que le peuple congolais puisse retrouver son sourire.
Les conséquences sont donc évidentes. Lesquelles?
Mais il est bien entendu, les conséquences, c'est la pauvreté accélérée de la population. Les conséquences, c'est aussi les capacités des parents à prendre leurs enfants en charge au niveau de l'enseignement, en dépit de la gratuité de l'enseignement, qui n'est praticable qu'au niveau de l'enseignement fondamental. Mais l'enseignement, c'est plus que ça. Les conséquences, c'est au niveau de l'augmentation des taux de mortalité, des taux de morbidité dans les hôpitaux qui ne sont pas pourvus en matériel nécessaire, les hôpitaux qui ne sont pas pourvus en médicaments, et cela ne peut bien expliquer l'augmentation des taux de mortalité. Dernièrement, à Bassoko, il s'est produit une épidémie de rougeole, mais aucune intervention du gouvernement, tant national que provincial, n'a été observée dans le territoire de Bassoko. L'administrateur du territoire m'a fait part de ce constat. On dirait que c'est une partie de la République qui est abandonnée par le gouvernement central et même par le gouvernement provincial, où on n'a pas encore vu l'autorité provinciale. Les provinces ont été découpées pour réduire les dimensions géographiques afin de permettre aux gouverneurs des provinces de circuler et de circuler facilement pour se rendre compte des réalités de chaque territoire.
José Toengao, Bassoko est l'un des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Actuellement, il y a un programme de développement local, PEDEL 145, qui est mis en œuvre. Quelle est la situation sur place à Bassoko?
Je dois être honnête pour reconnaître qu'il y a débit effectif de quelques projets, notamment j'ai visité personnellement la construction de bâtiments administratifs en construction. Il y a quelques écoles et centres de santé qui sont en construction. Mais les pressions générales qui se dégagent au niveau de la population de Bassoko est telle que on s'est attaqué aux problèmes qui ne constituent pas des besoins prioritaires de la population de Bassoko.
Selon vous, quels sont ces besoins prioritaires?
Les besoins prioritaires de la population du territoire de Bassoko se situent au niveau des voies de communication, notamment les routes. Et ces routes sont impraticables. La population de Bassoko aurait aimé qu'on puisse concentrer les moyens disponibles pour le développement de 145 territoires, au développement ou à l'amélioration, à l'entretien, pourquoi pas à la construction de ces routes, afin que les populations évacuent facilement leur production agricole, afin que les populations circulent librement. Et c'est de là que découlerait le développement des autres secteurs de la vie.
Professeur Faustin Toengao, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le député national élu du territoire de Bassoko, dans la province de la Tchopo, répondait aux questions de Jacques Moukonkolé. Par ici, prend fin ce journal, coordonné par Élisée Chikotachi-Vueta, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Alain Ngoy à la mise en onde, merci d'avoir été des nôtres.